Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6h avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile de la chronique « Ça t'embouche un coin » d'Estelle.
6h
avant minuit.
6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et ce soir c'est Estelle qui nous donne une nouvelle chronique, toute nouvelle, qu'on retrouvera régulièrement cette année. Ça s'appelle « Ça t'embouche un coin » Estelle.
En effet, bienvenue dans « Ça t'embouche un coin », la chronique où certains poétiques feraient bien de tourner leur langue cette fois dans la bouche avant de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, on revient sur une scène au Parlement européen qui aurait mérité une standing ovation. Celle où Abir Al-Shani a mis KO un débat qui n'aurait même pas dû exister. Petite mise en contexte. Le 15 septembre, Jordan Bardella, président du parti Patriot for Europe, a organisé un débat avec un titre tout en finesse. Il est temps de mettre fin aux migrations massives maintenant. Protéger nos femmes et nos enfants. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mettre fin aux migrations pour protéger nos femmes et nos enfants.
This debate is both factually and morally wrong. Wrong, wrong, wrong.
Faux, faux, faux. Ce débat, en plus d'être nauséabond, a été imposé de force à l'agenda parlementaire par la pression de l'extrême droite. Mais Abir Al-Shalani, eurodéputée suédo-irakienne et membre de Renew Europe, n'a pas crié, n'a pas insulté. Elle a juste pris le micro et elle a cloué le bec à quelques eurodéputés. Les élus de l'extrême droite avaient l'outrecuidance de laisser entendre que la source des violences sexuelles en Europe serait l'immigration. Spoiler alerte, non. Abir Al-Shani rétablit les faits dans son discours au Parlement européen. 1. Il y a une baisse de 66% des demandes d'asile. 2. Elle poursuit en disant « Les violences sexuelles sont majoritairement commises par des citoyens européens selon les données de l'UE. »
The common nominator is spelled M-E-N, men.
Oui, l'ennemi n'a pas de passeport exotique, ce sont les hommes, avec un grand Z. Elle dénonce ensuite le mécanisme classique de l'extrême droite, transformer les migrants en boucs émissaires pour alimenter la haine et l'ignorance.
Women rights organizations are rejecting your cynical weaponization of our pain for your racist agenda.
Mais surtout, elle rappelle une chose simple, les femmes n'ont pas besoin qu'on parle pour elles.
I have my voice. Don't you dare claim to represent it.
Merci.
Merci Estelle, drop the mic. C'était super. À bientôt, à dans un mois. À dans un mois.
6h
avant minuit.
6h avant minuit.
On passe à la chronique et ça fait super longtemps qu'on n'a pas entendu la chronique d'Estelle. Ça t'embouche un coin, donc c'est le moment. À toi Estelle.
Ici les femmes parlent et les machos se taisent. Aujourd'hui, on s'offre un petit moment de délice. Comment Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a cloué le bec à un député sexiste. On rembobine. Mercredi 12 novembre, nos chers députés sont en plein examen du budget de la Sécurité sociale. Ce jour-là, ambiance réforme des retraites. Donc déjà, forcément, ça chauffe un peu. En pleine discussion, la députée écologiste Sandrine Rousseau décrit la réforme comme une violence sociale.
Si vous financez le décalage de la retraite par ces réformes-là, vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois.
Après sa prise de parole, le député Jérôme Verny de l'Union républicaine démocratique prend le micro. Écoutons ce qu'il a tant à nous dire. Petit warning, ça va vous casser les oreilles.
Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole ? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro ?
Ça, c'est pas acceptable.
Explosion dans l'hémicycle. Pas une seconde ne passe que Yaël Braun-Pivet recadre le monsieur. Rappel à l'ordre clair, net, sans bavure. Pour cause, des propos sexistes visant Sandrine Rousseau.
Acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte.
La suite du tableau, applaudissements à gauche et au centre. Sandrine Rousseau, assise sur son banc, est silencieuse. Elle exquit un sourire à Yaël Braun-Pivet. Soyons honnêtes, est-ce qu'on est vraiment choqués ? Elle est leur cauchemar éveillé, femme, féministe, de gauche. Le combo parfait qui déclenche automatiquement la sirène panique chez les conservateurs. Depuis son perchoir, Yaël Braun-Pivet estime que les propos de Jérôme Verny sont une attaque sexiste. Et ce genre de comportement, c'est fini.
Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini ! C'est fini !
Jérôme Verny, un peu sonné, crie à l'injustice et part chouiner auprès du journal du dimanche. Je cite « Aujourd'hui, toute remarque devient immédiatement suspecte de sexisme. C'est regrettable, car on ne peut plus débattre sereinement sans risquer d'être caricaturé. » Pêcheur. Bon. Il en a quand même profité pour dénoncer une dérive woke dont les Français n'en peuvent plus. Petite question, est-ce que autour de cette table, on n'en peut plus de la dérive woke ? Compliqué. C'était pas trop dérangeant.
Ça va, on le vit plutôt bien ici.
Voilà. Et autre question, qui n'en peut plus des bullshit de la droite ? Voilà, la réponse elle est présente. Cette fermeté, elle tombe dans un contexte où Sandrine Rousseau se fait souvent cibler. Yaël Braun-Pivet rappelle que ce n'est pas un cas isolé.
Et je vous indique d'ailleurs que sur deux précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, deux rappels à l'ordre également.
Parce que oui, l'extrême droite n'est pas à son coup d'essai. Présidé pendant des années par une femme, le RN a tenté de faire croire qu'il était un parti féministe. Une bien bonne blague de leur part qui n'a absolument rien à carrer des droits des femmes. 10 jours plus tôt, le 30 octobre, les députés RN Laurent Jacobelli et Kevin Pfeiffer avaient attaqué Sandrine Rousseau en disant « Prends un cachet, tu vas craquer, elle est complètement siphonnée !» Les propos se noient dans la cacophonie, Christophe Blanchet, au perchoir à ce moment-là, ne réagit même pas. C'est quelques jours plus tard, la présidente de l'Assemblée nationale qui rectifie le tir avec un rappel au règlement. Encore une fois, ce sont les femmes qui recadrent.
Merci beaucoup Estelle, avec une pointe d'accent marseillais. Tu n'aurais pas été à Marseille ce week-end.
6h avant minuit.
On commence fort l'année car c'est le retour de la chronique « Ça t'embouche un coin » d'Estelle. Et aujourd'hui, cette chronique est spéciale car Estelle, tu vas nous parler d'un bouquin.
Et oui, je vais vous faire une petite reco puisque mes parents connaissent super bien mes goûts. Ils m'ont offert le cadeau parfait pour Noël. Et c'est le livre « Le coût de la virilité » de Lucille Peytavin. Alors déjà, ce livre, il apporte deux choses essentielles. Un éclairage sur l'actualité, parce qu'il parle concrètement de ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Et des arguments solides pour déconstruire la masculinité toxique au passage. Donc, historienne et spécialiste des droits des femmes, Lucille Peytavin sort son essai en 2023 aux éditions du Livre de Poche et une nouvelle édition illustrée en collaboration avec Fabrice Aès est sortie en octobre 2025. À l'origine, c'est un essai dans lequel elle tente de calculer une chose très simple, le coût, la facture de ce qu'on appelle la masculinité toxique. En fait, l'écrivaine, elle essaye de théoriser combien coûte chaque année cette masculinité à l'État. Trigger warning, parce que je préfère prévenir dès maintenant, c'est pas un essai belliqueux écrit par une féministe enragée, c'est un essai pédagogue écrit par une historienne où tout est sourcé, démontré, chiffré. Donc, et d'ailleurs, elle commence par des chiffres assez éloquents. En France, les hommes représentent, attention, 96% des personnes incarcérées, 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 86% des mises en cause pour meurtre et 97% des auteurs de violences sexuelles. Bref, la liste est très longue parce que dans ce livre-là, il y a plein d'autres chiffres qui sont mis en avant. Et elle reconnaît quand même que, bien sûr, les femmes commettent aussi des infractions. Que, bien sûr, ce ne sont pas tous les hommes. Et que, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, notamment socio-économiques. Et son postulat, il est simple. Diminuer la masculinité toxique, ça nous rapporterait un max de thunes. Mais un max de moula. Donc, Comment c'est possible? Comment elle fait? Et elle va le prendre, en fait, elle prend une par une les excuses qu'on invoque habituellement pour justifier les comportements violents ou à risque des hommes, et elle les démonte, tout simplement. La théorie des pulsions incontrôlables, faux, des études le montrent. La théorie de l'héritage éternel, a.k.a. l'homme de 2026 serait encore un homme des cavernes, faux, des études le montrent. Donc, la conclusion est simple. La masculinité toxique n'est pas innée, elle est inculquée par la culture, la publicité, l'éducation, des domaines totalement transformables. Alors, c'est quoi le prix? Combien coûte la masculinité toxique à l'État? C'est la vraie question.
Dis-nous tout.
Eh bien, en additionnant l'ensemble des coûts, la virilité toxique coûterait 95,2 milliards d'euros par an. Et oui, 95,2 milliards d'euros. C'est plus que le déficit de la France en 2019. Et pour bien qu'on visualise, Lucille Peytavin propose des infographies très parlantes. Avec cette somme, on pourrait, par exemple, diminuer de moitié l'impôt sur le revenu, rembourser la dette de l'hôpital ou encore combler le déficit des retraites. Donc voilà pour ma petite reco. Conseil, lisez-le si vous voulez briller autour de la prochaine galette des rois ou tout simplement pour clouer le bec à un vieux masque.
Merci beaucoup Estelle, à dans un mois pour une nouvelle chronique.
6 heures avant minuit.
Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais le Haut Conseil à l'égalité a publié son rapport annuel la semaine dernière. Qui de mieux qu'Estelle pour le décrypter? C'est l'heure de sa chronique. Ça t'embouche un coin.
Ça t'embouche un coin. Ça t'embouche un coin.
Ça t'embouche un coin.
Ça t'embouche un coin.
Ça t'embouche un coin.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel pour bien comprendre de quoi on parle. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'on appelle plus simplement HCE, est une instance consultative indépendante créée en 2013. Son rôle, être un lieu de réflexion, d'évaluation et de proposition sur les politiques publiques en matière de droits des femmes et d'égalité. Et chaque année, le HCE publie un rapport sur l'état du sexisme en France. Et pour nous aider à comprendre ce rapport, je laisse la parole à Michel Vianès, membre du Haut Conseil à l'égalité.
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, présidé par Bérangère Couillard, a remis son rapport annuel à la ministre Aurore Berger. Alors c'est un travail, je dirais, très solide, qui est fondé sur 700 000 données et qui ont été recueillies auprès de plus de 3 000 personnes. À partir, je dirais, d'un questionnaire internationalement reconnu et qui a été analysé par un laboratoire du CNRS. Alors, ce rapport rend visible l'impact très concret du sexisme dans la société française. Alors, je rappelle que le sexisme est une idéologie qui repose sur l'idée d'une infériorité des femmes par rapport aux hommes et donc qu'il s'oppose frontalement au principe fondamental de notre République, l'égalité entre les femmes et les hommes.
Et oui, le 20 janvier, le rapport du HCE nous apporte à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez que je commence par laquelle?
Bah, la bonne.
Alors la bonne, c'est que les femmes se déclarent de plus en plus féministes.
Ah,
c'est
intéressant.
Cool. Mais la mauvaise, c'est que les hommes sont de plus en plus séduits par les discours masculinistes.
Ah, je pensais me tromper.
Bah non, ah. Malheureusement, on aimerait tous. Et pour comprendre cette polarisation, le rapport y met en avant trois constats majeurs. Premier constat, deux types de sexisme. Donc le rapport se distingue par deux formes principales, le sexisme paternaliste et le sexisme hostile. Le sexisme paternaliste s'inscrit dans une vision très patriarcale de la société. Il se présente comme bienveillant, protecteur, mais légitime en réalité une répartition hiérarchisée entre les femmes et les hommes. En gros, pour eux, les femmes sont très fragiles ou ont besoin d'être protégées, et c'est ok. Les chiffres sont parlants. Selon le HCE, ce sexisme concerne un quart de la population, soit 12,5 millions d'hommes et 3 millions de femmes. Le sexisme hostile, lui, est perçu comme plus violent. Il inclut des attitudes agressives et dévalorisantes à l'égard des femmes. Le HCE alerte sur une dynamique particulièrement préoccupante. En fait, ce sexisme il s'inscrit de plus en plus dans une logique d'adhésion collective. Et surtout, il est étroitement lié à une plus grande tolérance des violences sexuelles. Le rapport le souligne clairement. Plus l'adhésion à ce type de sexisme est forte, plus les viols et agressions sexuelles sont jugées acceptables. Le sexisme hostile toucherait environ une personne sur six, soit 6 millions d'hommes et 3,5 millions de femmes. Alors oui, les hommes sont majoritaires dans ces chiffres, mais les femmes y adhèrent aussi. Deuxième constat, la libéralisation de la haine sur les réseaux sociaux. Ces gros haters-là, on les voit tous. Donc le rapport, il explique que les réseaux sociaux constituent un espace de cristallisation et d'amplification des discriminations et des violences faites aux femmes, mais aussi aux minorités de genre. Derrière l'anonymat ou les pseudonymes, certains considèrent ces espaces comme des zones où tout serait permis. Résultat, le cybersexisme est identifié comme la première forme de discours de haine en ligne. 84% des victimes sont des femmes. Et le troisième constat, le dernier, bien sûr, le phénomène du masculinisme. C'est une première pour une institution française de consacrer une analyse spécifique au masculinisme. L'étude révèle que 15% des hommes estiment qu'une femme victime d'agression sexuelle peut être en partie responsable de ce qui lui est arrivé. Un chiffre qui illustre clairement la banalisation de la culture du viol en déplaçant la responsabilité de l'agresseur vers la victime. Autre chiffre marquant, 46% des hommes de moins de 25 ans estiment qu'un homme ne doit pas montrer ses émotions. Donc pas de ouin-ouin ici. Ce qui renforce le stéréotype masculiniste de l'homme fort. Sans ambiguïté, les experts du rapport qualifient les discours masculinistes de menaces pour l'ordre public et d'enjeux de sécurité nationale. Ils soulignent que l'essor d'Internet a largement contribué à leur diffusion et à leur banalisation. Et au-delà de ces constats, le rapport rappelle que les inégalités entre les femmes et les hommes restent très concrètes dans la vie quotidienne, que ce soit au travail, dans l'espace public, en politique, dans la sphère familiale et même dans les médias. Dernier chiffre pour appuyer ce fait, 86% des femmes déclarent avoir déjà vécu une situation sexiste. Donc après tous ces constats alarmants, c'est légitime de se demander comment lutter contre le sexisme. Et je vous propose d'écouter à nouveau Michel Vianès.
Eh bien, je dirais que l'ordre n'est plus seulement la prise de conscience, mais l'action contre ce terrorisme misogyne. Donc, les leviers concrets. D'abord, évidemment, l'éducation à l'égalité des filles et des garçons, la responsabilisation des plateformes numériques, la protection des victimes et surtout la reconnaissance institutionnelle du danger. Et ce n'est pas du tout un sujet marginal, c'est une menace réelle pour la cohésion sociale, pour la sécurité publique, notamment des femmes, et les principes républicains, parce que, on le rappellera tant de fois, mais il faut quand même le rappeler encore, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le pilier de la démocratie, et le sexisme, quelles que soient ses formes, c'est la négation.
Voilà pour ce rapport du Haut Conseil à l'égalité de 2026, un rapport dense, documenté et surtout révélateur de l'état de notre société. Et franchement, ça embouche un coin.
Merci beaucoup pour ce décryptage de qualité, Estelle. À bientôt pour une nouvelle chronique, ça t'embouche un coup.
6 heures avant minuit.
Tu restes avec nous, Estelle, parce que c'est l'heure de ta chronique.
Et en ce moment a lieu la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale. Juste petit contexte pour que vous suiviez tous. Depuis fin octobre dernier, l'audiovisuel public fait l'objet d'une commission d'enquête à la demande du groupe Ciotiste. Elle est présidée par Jérémy Patrier-Leitus, député Horizon, et son rapporteur Charles Alloncle, député Union des droites pour la République. Elle vise à examiner plusieurs points. Le premier, les thèmes développés et les angles retenus par le service public. En gros, de quoi on parle sur les chaînes publiques. Le second, vérifier l'objectivité et la traçabilité des processus de décision. Qui décide quoi et comment. Et enfin, faire le point sur les budgets consacrés à l'audiovisuel public. En gros, comment sont gérés les sous-sous dans un contexte politique obsédé par la réduction des dépenses. Le 2 février était auditionnée Léa Salamé, accompagnée des rédacteurs en chef du 20h de France 2, Hugo Planière et Julien Dupéré. Et oui, notre très chère présentatrice du 20h a dû faire face aux questions de Charles Alloncle. Et elle y a répondu avec beaucoup de maîtrise. Autre contexte pour ceux qui suivent pas trop les gossips politiques. En gros, depuis 2015, Léa Salamé est en couple avec Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, c'est un député européen du parti Place Publique, régulièrement cité comme potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2027. Et elle savait que la question viendrait, qu'elle serait insistante, voire soupçonneuse. Donc Charles Alloncle a posé la fameuse question.
Chacun le sait, mais le conjoint est le plus souvent la personne à qui l'on se confie en toute transparence, que l'on soutient, que l'on accompagne dans ses espoirs et aussi dans ses ambitions. Même si absolument personne ici ne doute de vos compétences journalistiques évidentes, quelles garanties concrètes apportez-vous aujourd'hui aux Français pour assurer votre impartialité, votre indépendance, tant dans le traitement de l'information que dans la ligne éditoriale du journal et plus particulièrement encore dans le choix et le traitement des invités politiques?
Face à cette question, Léa Salamé a répondu droit, sans haussement de voix, sans colère, avec une ligne très claire, indépendance et liberté de penser. Voici sa réponse.
Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête et une femme libre.
Parce que oui, en 2026, nous les femmes, nous sommes encore obligées de rappeler que nous sommes libres. Elle ne nie pas la légitimité de la question et elle y répond par les faits. En 2019, lorsque son compagnon s'engage dans la campagne européenne, elle se retire de l'antenne le jour même. Et ce, malgré l'avis contraire de sa hiérarchie qui n'en voyait pas la nécessité. En 2024, elle applique la même règle, lors des élections européennes. Donc pour demain, même principe.
Si les candidats, je sors de l'antenne.
Cette réponse, elle surprend personne. Elle a toujours été claire sur ce point. Lors de son arrivée aux 20h en septembre dernier, le principe avait déjà été posé par France Télévisions. C'est net, elle ne s'accroche pas, elle se retire. Mais sa réponse ne s'arrête pas là.
Je reçois près de 400 invités par an. Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview sous l'influence de quiconque. Et pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là? Je ne le pense pas, moi.
Elle précise qu'elle ne parle pas d'un principe féministe, mais républicain, et retourne la question. Pourquoi se retire-t-elle à chaque fois? Et c'est par souci d'indépendance, pour ne pas abîmer le lien de confiance avec les Français, pour éviter le moindre doute, la moindre suspicion.
Mon indépendance, mesdames et messieurs les députés, c'est mon talisman. J'y tiens plus que tout.
Et elle conclut par ce perfect.
Et aujourd'hui, il est député européen. Moi, je mène mon travail en toute impartialité, en toute indépendance. Personne ne me tient le crayon. Et je ne suis pas une femme sous influence.
Franchement, c'est une réponse plutôt solide. Et on pourrait croire que le sujet est clos. Mais que nenni. Charles Alloncle pose une nouvelle question, clairement piégeuse. Pour le bonheur de tous, on va se l'écouter.
Est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2?
J'ai regardé l'audition dans son intégralité. Et je peux vous dire qu'à ce moment précis, la tension a été palpable dans la salle. On a même assisté à une petite chamaillerie entre le président de la commission, Jérémy Patrier-Leitus, et le rapporteur. Bon, la question, elle a un double sens. Grosso modo, votre compagnon est à gauche, donc c'est acceptable. Mais qu'en serait-il s'il appartenait au Rassemblement National? Toujours avec la même maîtrise, Léa Salamé espère tout bonnement que, je cite, « Si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à exercer sur une chaîne privée, comme publique. » Charles Alloncle se défend en assurant qu'il poserait la même question à un homme. Il cite l'exemple de Laurent Delahousse en couple avec Marine Tondelier. À cet instant précis, l'audition bascule. On quitte la déontologie pour entrer dans une mise en scène politique. Et Léa Salamé, sans hausser le ton, recentre le débat sur ce qu'elle maîtrise. La règle, la transparence, l'indépendance. Au moment de ces questions, deux choses apparaissent clairement. D'abord, que le rapporteur teste la frontière entre vie privée et information publique. Et ensuite, en 2026, une femme peut être encore réduite à l'ombre de son compagnon. Et ça, c'est profondément désolant.
Tu m'embouches un coin. Merci Estelle, dans 3 semaines.
Yeah,
pour une prochaine.
Pour une prochaine.
Ça t'embouche un coin.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On passe à la chronique. Ce soir, Estelle revient sur les élections municipales. Ça nous avait manqué. Hein. Avec un zoom sur les femmes dans la politique locale, c'est la chronique. Ça t'embouche un coin.
Alors, les municipales sont passées et je me suis posé une question toute simple. La politique locale, c'est toujours une affaire d'hommes ou pas en 2026? Parce que cette année, attention, petite révolution, pour la première fois, autant d'hommes que de femmes sur toutes les listes. On peut applaudir. Mais doucement quand même. Jusqu'ici, la règle n'est pas la même partout. La parité était obligatoire uniquement dans les communes de plus de 1000 habitants. Dans les plus petites communes, c'était beaucoup plus souple. Des listes à taille variable, sans réelle contrainte. Les électeurs pouvaient barrer des noms et en ajouter d'autres. On appelait ça le panachage. Et bizarrement, cette pratique a perpétué dans les esprits que l'usage et l'exercice du pouvoir étaient avant tout une affaire d'hommes. Les élections envoyaient au conseil municipal beaucoup plus de représentants masculins que féminins. Mais ça, c'était avant, puisque la parité s'applique maintenant partout. La loi qui met fin au panachage et qui impose des listes paritaires dans les villages a été votée en mai 2025. Et s'est donc appliquée cette année pour la première fois en 2026. Et quand on sait qu'il y a plus de 25 000 petites communes en France, on se dit « ça y est, ça va changer ». Enfin, sur le papier. Parce que dans la réalité, la parité, elle s'arrête souvent à la porte du pouvoir. Quand on regarde qui décide vraiment, là, les hommes reprennent la main. Alors oui, il y a des progrès, petit à petit. Le cadre législatif facilite progressivement l'engagement des femmes dans la vie publique. Par exemple, depuis 2019, les frais de garde d'enfants peuvent être pris en charge pour permettre à une mère de participer à une réunion ou un conseil municipal. Et en décembre 2025, il y a eu une nouvelle avancée. Une mairesse en congé maternité peut continuer à toucher ses indemnités. Parce que oui, on a découvert récemment qu'une mère, M-A-I-R-E, pouvait aussi être une mère, M-E-R-E. Incroyable, non ? Révolutionnaire. Mais est-ce qu'en 2026, la gente féminine a réussi à conquérir le fauteuil de mère ? Pour vous donner un ordre d'idée, en 1965, 20 ans après le droit de vote, on dénombrait 1% de femmes mères dans les communes. Aujourd'hui, en 2026, elles sont 22,6%, ce qui équivaut à 7888 femmes élues. C'est 516 de plus qu'après les municipales de 2020. Et plus on monte en taille de ville, plus les mairesses disparaissent. Seulement 8 maires des 42 villes de plus de 100 000 habitants sont des femmes. Il y a Johanna Roland à Nantes, Catherine Trottmann à Strasbourg, Nathalie Appéré à Rennes, José Massy à Toulon, Nathalie Conders à Dijon, Laurence Ruffin à Grenoble, Erika Barreit à Saint-Denis à La Réunion, Sophie Jossin à Aix-en-Provence. Oui, je les ai toutes listées parce qu'elles le méritent. On le voit bien, le fauteuil de maire reste le plus souvent une affaire d'hommes. Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là. Selon les données compilées par Politis, seulement 24,4% des listes aux élections de 2026 étaient menées par une femme. Sans surprise, le moins bon élève est l'extrême droite, avec à peine 22% de femmes contre 77% des hommes. A l'inverse, plus une liste est classée à gauche de l'échiquier politique, plus elle a de chances d'être portée par une femme. Outre la place sur les listes, la répartition reste très genrée. Aux femmes, la petite enfance, la culture, la santé, et aux hommes, les finances, le sport, la sécurité. Bref, la féminisation avance petit à petit. À ce rythme-là, la parité réelle dans les mairies, elle arrivera en 2083. Alors en attendant, on peut toujours se consoler avec cette idée simple, que le monde tournerait beaucoup mieux si les femmes en étaient aux commandes, selon les dires d'une grande philosophe féministe, ma mère.
Merci Estelle, merci maman d'Estelle, le grand ciao.
Si la 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 radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'Ito.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.